Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 10 février, froid devant, la moitié nord de la France grelotte et dérape avec une couche de neige qui va de la Bretagne à l'Alsace. 13 départements sont encore en vigilance orange. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Et la poudreuse tombe en ce moment sur l'Est.
Oui, entre les Vosges, l'Alsace et la Franche-Comté, de la neige en plaine et puis en montagne également, dès 800 mètres sur le Jura, les Alpes, mais aussi sur le Massif central et les Pyrénées. Alors on retrouve un temps sec bien ensoleillé entre la Bretagne, l'Île-de-France et la Lorraine. De belles éclaircies également près de la Méditerranée. Ailleurs, encore beaucoup de nuages et quelques averses. Le temps reste agité et orageux sur la Corse, tout ça sous des températures très froides au nord, avec le vent, pas de dégel attendu. Moins 5 à Strasbourg, moins 4 à Lille, moins 2 à Paris, 3 à Brest. Et des températures très contrastées avec le sud, 10 à Lyon, 13 à Bordeaux, 14 à Montpellier et 16 à Nice.
L'Europe a été trop lente sur les vaccins, trop optimiste sur leur production. C'est le mea culpa inédit de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Évacuer la question du consentement pour mieux juger les crimes sexuels, c'est l'une des pistes évoquées par le garde des Sceaux. Nous verrons ce qu'en pense la psychiatre Muriel Salmona. Dans RTL Midi aussi, la loi climat dans nos assiettes. Le gouvernement veut nous inciter à manger bio et local. Ça tombe bien, nous nous prenons tous pour des top chefs. Depuis le premier confinement, les Français se sont mis en cuisine. Nous verrons pourquoi ça nous fait du bien. La question du jour, justement, passez-vous de plus en plus de temps en cuisine? Et vous êtes 34% à nous dire oui, à 60% de non. Bonjour Pascal Praud.
Moi, je ne me prends pas vraiment pour un top chef, croyez-moi, si vous pouvez venir dans ma maison le soir, ça m'arrange avec Christelle.
Mais moi, si.
Bonjour. Le gouvernement est favorable à ce que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue désormais automatiquement un crime. C'est un sujet grave, important, qui fera réagir les auditeurs. Se dirige-t-on vers un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen pour 2022? C'est une question que nous posons régulièrement. La présidente de la Commission européenne qui a fait son mea culpa, nous en parlerons. Et puis, on pense à notre ami Julien Courbet. Sur Twitter, il a annoncé la disparition de sa chienne, Vega, 16 ans, avec un message très émouvant. Vega, je ne pensais pas que je pourrais aimer un chien à ce point et qu'un chien pourrait m'aimer autant. Eh bien, je suis persuadé que ce sujet fera réagir les auditeurs tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Moins 5 degrés à Nancy, moins 2 à Paris. On parle de maximal. Ça pique et ça glisse puisqu'il est tombé jusqu'à 10 cm de neige en Bretagne, 5 cm en région parisienne. Vincent Serrano, vous êtes à Bièvre dans l'Essonne où il a fallu se lever plus tôt.
Oui, très tôt ce matin, même pour Thomas. Coup de pelle obligatoire dans l'allée pour sortir la voiture et puis passage obligé aussi sur le pare-brise. Alors le coup de raclette est précis, mais le père de famille prend tout son temps.
Eh bien, c'est agréable en fait ce petit moment de vacances qui arrive jusqu'à nous. Juste enlever un peu de neige ce matin, mais c'est assez exceptionnel.
On s'attendait à en voir autant justement sur la voiture?
Non, pas vraiment. Donc, ça a l'air de bien dégager, donc les choses ont été bien prises en amont.
On a pris les dispositions aussi pour les enfants?
Je sais pas, ils sont avec leur mère.
Ah, vous avez laissé Jérémy?
Ils sont encore petits, donc pas d'école. Un peu de luge, ouais, je pense.
Et c'est exactement ce que fait Audrey sur le chemin du centre de loisirs qui reste ouvert aujourd'hui. Et pour une fois, ses enfants, Ethan et Loïs, traînent des pieds pour y aller.
Moi, j'aime bien la neige, surtout quand elle est douce. On peut faire des bonhommes de neige et on savait bien qu'il allait neiger. C'était vraiment très bien.
Et dans la maison, après, c'est de l'eau à tout va.
Et après, faut nettoyer exactement et puis bien les habiller et les couvrir pour pas qu'ils aient froid. Il faut bien, faut les occuper.
Journée de télétravail aujourd'hui pour elle qui a prévenu son patron hier soir à la dernière minute. Alors ici, les sableuses de la ville continuent de tourner, mais dans les rues principales, pas devant le centre de loisirs, ce qui veut dire qu'Audrey pourra certainement venir rechercher ses enfants avec la luge.
Vincent Serrano, la préfecture de police demande aux franciliens, dans la mesure du possible, de renoncer au maximum à leurs déplacements routiers. La RN 118 reste fermée, le trafic transilien est perturbé. Dans les Côtes d'Armor, 200 camions sont encore stockés, nous dit notre correspondant Nicolas Bobby. On sait que le coronavirus aime le froid, alors cette météo va-t-elle activer sa circulation? L'épidémiologiste Pascal Crépet nous appelle à la prudence.
Quand il fait froid, on a tendance à changer nos comportements, vivre plus en intérieur et à moins aérer, et donc à favoriser la concentration d'aérosols, et donc l'air est moins renouvelé, et bien elle a plus de risques de contaminer plus de personnes. Alors il faut continuer à aérer les pièces quand on le peut, sinon on peut toujours se rabattre sur tous les autres moyens de prévention, la distanciation physique, le port du masque, limiter les contacts interindividuels, qui sont des mesures qui, elles, fonctionnent quelle que soit la température extérieure.
Pascal Crépé avec Mourad Djabari. Nouveau conseil de défense ce matin sur la pandémie. Au même moment, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est la cible de toutes les critiques sur les lenteurs de la vaccination ou sur le manque de doses, a fait son mea culpa, Bénédicte Tassard.
Oui, dès le début de la séance, la présidente de la Commission européenne n'y va pas par quatre chemins. Nous n'avons pas atteint notre objectif, reconnaît-elle.
Nous avons été trop lents à autoriser les vaccins, trop optimistes pour les produire en masse et peut-être avons-nous été trop confiants dans la ponctualité des délais de livraison. Nous devons nous interroger sur le pourquoi et réfléchir à quelles leçons nous pouvons en tirer.
Et Ursula von der Leyen d'admettre aussi des erreurs, aujourd'hui rectifiées, quand Bruxelles a voulu interdire les exportations de vaccins vers le Royaume-Uni par l'Irlande du Nord. Maintenant, la présidente promet une mise sur le marché plus rapide des nouveaux vaccins, avec une procédure accélérée des autorisations et surtout des usines qui devraient tourner à plein régime sur le sol européen.
Effectivement, le laboratoire BioNTech démarre la production de son vaccin dans une nouvelle usine à Marbourg en Allemagne. Elle va notamment y fabriquer le principe actif du sérum. Les premiers vaccins devraient être expédiés début avril, ce qui devrait faire baisser la pression sur les doses. En France, le Covid a durement impacté l'intérim. Une chute de 23,6% d'après le baromètre Prism Emploi. Ça correspond à la disparition de 185 000 emplois intérimaires l'an dernier. Il retrouve son niveau de 2015. Comment changer la loi face aux crimes sexuels sur mineurs? On en parle dans un instant.
RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Le président du Centre National du Cinéma, Dominique Boutonnat, en garde à vue. Il est soupçonné de tentative de viol et d'agression sexuelle sur son filleul, âgé de 22 ans. C'était l'été dernier. Ce dernier l'accuse. Il dément. Hier, on parlait du producteur de télévision Gérard Louvain et son mari qui font l'objet d'une enquête, eux, pour des viols incestueux. La semaine dernière, Richard Berry. Depuis les révélations de Camille Kouchner sur son beau-père, les plaintes se multiplient. Et face à la notion complexe de consentement, le gouvernement veut changer la loi, Anne Le Hénaff.
Oui, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a souhaité hier soir que toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans soit désormais un crime, passible de 20 ans de prison. La victime sera par principe non consentante. Ça ne règle pas le principal problème, celui de la preuve, pour Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature.
On garde quand même la nécessité de prouver que l'adulte savait l'âge du mineur, donc on déplace finalement le problème de la preuve sur un autre point. On a beau faire des lois et remodifier les peines, les augmenter la prescription, on a toujours le même phénomène. C'est très difficile de récupérer les preuves dans ce type d'affaires. Et comment on peut agir là-dessus? C'est par un travail beaucoup plus important que de changer la loi par un trait de plume. C'est un travail par rapport aux conditions dans lesquelles la parole des victimes est susceptible d'être recueillie. Parce que plus on recueille la parole tôt, plus on va avoir des preuves qui vont permettre finalement d'aboutir à une condamnation.
L'autre souhait du gouvernement, c'est d'assouplir le délai de prescription qui court aujourd'hui jusqu'à 30 ans après la majorité de la victime. Il serait aligné sur celui de la dernière victime d'un même auteur. Toutes les victimes d'un même agresseur auront ainsi droit à un procès, quel que soit le temps dont elles ont besoin pour parler.
Et pour aller plus loin, nous sommes avec Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Bonjour.
Bonjour.
Que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue automatiquement un crime. C'est une avancée que vous attendiez, j'imagine?
Oui, tout à fait. Là, on salue cette avancée. Après, on va voir comment ça va se mettre en place. Et puis, on regrette aussi que la spécificité des violences sexuelles incestueuses ne soit pas prise en compte par rapport aussi à un seuil d'âge qui peut pas être 15 ans, mais qui devrait être 18 ans. Et puis, on se pose aussi la question...
Pourquoi 18 ans, selon vous? Pourquoi ce serait un régime différent par rapport à l'inceste? Parce qu'il y a un problème d'emprise supplémentaire?
Oui, et puis parce que il est hors de question qu'un consentement soit valide avec un membre de sa famille, avec un adulte de sa famille. Là, il n'y a aucune possibilité de consentement du fait effectivement de la difficulté à pouvoir échapper à l'emprise de ces adultes, bien entendu, et puis aussi au fait que ce soit un inceste, enfin que ce soit quelque chose qui n'ait aucun sens, qui puisse pas être intégré par les mineurs, et dont ils doivent être absolument protégés, vu les conséquences gravissimes que ça peut avoir.
Bon, mais revenons-en à ce que disait le garde des Sceaux hier, hors inceste. Hein. Ça veut dire aussi implicitement qu'aucun adolescent ne peut avoir une relation consentie avec un majeur avant 15 ans. Pour vous, c'est un viol dans tous les cas de figure ?
Alors, ils veulent mettre en place, un peu sur le modèle de la loi canadienne, un écartage. C'est-à-dire que, qu'il puisse y avoir un écartage de 5 ans, par exemple. Voilà. Donc, ça permettrait effectivement d'éviter que des jeunes, juste tout jeunes majeurs. Par ailleurs, le consentement d'un mineur de 15 ans face à un adulte n'est pas envisageable du fait d'une absence de maturité. Des conséquences graves que ça peut avoir, d'une absence de consentement. Le consentement ne peut pas être libre et éclairé dans ces conditions, et il s'agit de protéger absolument ces enfants-là. Donc, par rapport à des pénétrations, et j'espère aussi par rapport à des agressions sexuelles, puisque ça n'a pas été abordé, mais je pense que ça le sera.
Mais entre 13 et 15 ans, donc on n'a pas de discernement ni de maturité sexuelle ?
Alors, le discernement, c'est au-delà du discernement, c'est la possibilité de pouvoir connaître déjà tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, de pouvoir envisager les conséquences que ça va avoir sur soi. Enfin, je veux dire, on doit protéger les mineurs par rapport à ça. La possibilité de s'opposer à un adulte, de pouvoir échapper à son emprise. Le fait que ça représente un risque très important, particulièrement sur les faits pour les filles, des risques de grossesse, et que la contraception ne peut pas incomber à ces jeunes-là, à cet âge-là. Et puis je veux dire, il y a forcément une contrainte de fait qui se produit, et aussi une surprise par rapport à la réalité de ce qu'est une sexualité adulte sur un enfant.
Bien sûr. Une dernière question, Muriel Salmona. Le garde des Sceaux veut aussi instaurer une prescription glissante. Toutes les victimes d'un même auteur seront considérés comme des victimes, même si pour certaines le délai de prescription a expiré. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on demandait. Ça avait été déjà voté au Sénat sur proposition d'un amendement du gouvernement, mais ça avait disparu en commission mixte paritaire. On n'a pas compris pourquoi.
Mais toutes les associations de victimes ne sont pas forcément de votre avis. Il y en a qui disent que la prescription, ça peut justement parfois pousser les victimes à trouver la force de parler avant la fin du délai.
Alors ça, c'est pas par rapport à la prescription glissante, c'est par rapport à l'imprescriptibilité. Je pense que c'est très choquant parce que je veux dire ça prend en compte peut-être possiblement quelques victimes qui effectivement le feront de cette façon-là parce qu'elles s'y sentiront obligées, mais pour toutes les autres qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont trop traumatisées, elles ont une amnésie traumatique, elles sont encore sous emprise, elles ont encore trop de culpabilité, de honte pour pouvoir le faire, et surtout elles n'ont pas été prises en charge, protégée, soignée par un État qui est complètement défaillant pour le faire, je veux dire, c'est d'une injustice terrible. Et puis ça n'a pas de sens, en fait. Et je rappelle que le Conseil de l'Europe, avec l'Assemblée parlementaire, a voté une résolution de 2330 qui, justement, exhorte tous les États à supprimer tout délai de prescription lutter efficacement. Et il y a aussi le problème des victimes, des autres victimes qu'il faut protéger. Voilà.
On en reparlera, en tout cas. On aura certainement l'occasion d'en reparler parce qu'on sent bien que la loi va bouger. Et c'est heureux. Merci Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Dans un instant, on change complètement de sujet. On va voir ce que la loi climat va changer dans notre alimentation au quotidien. Et bon appétit si vous êtes à table.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Le texte est baptisé Climat et Résilience. Le Conseil des ministres examine ce matin ce projet de loi qui doit permettre à la France d'atteindre son objectif d'une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Une loi ambitieuse, dit le gouvernement, insuffisante pour ses détracteurs. Une trentaine de personnes, des élus, des militants, sont rassemblés près de l'Élysée ce matin, parmi lesquels la jeune Camille Etienne, étudiante, activiste, la Greta Thunberg française.
On est là pour dire que vous n'êtes pas à la hauteur et on attend de vous que vous soyez à la hauteur. Donc on est en train de venir leur dire, on vous regarde, les yeux sont rivés vers vous, la jeunesse vous regarde, les moins jeunes vous regardent, tout le monde vous regarde, les citoyens attendent de vous que vous soyez à la hauteur. Parce qu'on oublie que c'est pas que des questions de pourcentage, de graphique, on parle de la vie de personne. Il y a 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air, on est en train de perdre 68% des animaux vertébrés depuis les années 70. C'est de la vie en fait qu'il s'agit, on l'oublie que c'est ça le principe même en fait de notre combat. C'est des experts qui qui ont passé des heures pour regarder les mesures, pour décrypter les mesures du gouvernement et voir si oui ou non ils étaient à la hauteur. Manifestement, elles ne le sont pas. Donc on est simplement venu le rappeler pour dire qu'on n'est pas sur les trajectoires. Donc en fait, l'État ne respecte pas ses propres engagements. C'est comme si le professeur ne respectait pas du tout les devoirs qu'il avait donnés. Ce serait complètement lunaire. Personne ne pourrait y penser. Ben, c'est pourtant ce qui se passe avec le gouvernement.
Camille Etienne au micro RTL de Vincent Derosier. Dans ce projet de loi, la rénovation énergétique, des transports plus propres ou encore l'alimentation, car le gouvernement entend bien nous faire changer nos habitudes, Virginie Garin.
Oui, il y aura par exemple plus de bio et de local dans les cantines, au moins la moitié des produits. Alors jusqu'à présent, c'était dans les cantines scolaires. Hein. L'obligation va être étendue à la restauration collective privée, donc les restaurants d'entreprise qui vont avoir quand même 4 ans pour s'adapter. Un chèque alimentaire va être créé, Emmanuel Macron l'a confirmé, mais pour les ménages les plus en difficulté, comme il existe aujourd'hui un chèque énergie, pour acheter des produits frais ou locaux, ça permettra aussi de soutenir les agriculteurs français. La loi va instaurer le principe d'un repas végétarien quotidien, alors proposé dans les cantines, mais uniquement dans les villes qui le souhaitent. Les citoyens voulaient le rendre obligatoire, ce sera facultatif. Et puis pour réduire le gaspillage et le volume des emballages, la vente en vrac sera favorisée. Elle devra représenter 20% des ventes en grande surface, pour les produits qu'ils permettent évidemment, alimentaires ou les lessives, mais pas avant 2030. Donc ce sont des mesures qui, oui, vont changer nos vies, mais pas tout de suite.
Virginie Garin, en tout cas, comme Cyril Lignac, depuis le premier confinement, nous sommes tous en cuisine. D'après Santé publique France, 37% des Français ont cuisiné plus que d'habitude. Les ventes explosent sur les robots ménagers et autres machines à pain. Alors pourquoi nous prenons-nous pour des top chefs? Bonjour Pascal Hébel.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc qui analyse nos comportements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement ?
Alors, ce qu'on observe, c'est que comme il y a beaucoup plus de repas pris à domicile, puisqu'on a 30% de gens qui sont en télétravail, les gens font un peu plus à manger. On note pratiquement 5 points de plus sur, par exemple, la pâtisserie. C'est vraiment sur ce produit-là qu'on voit une très forte hausse de vente, hein, par exemple de farine, la levure, pour faire du pain soi-même. Donc, il y a vraiment un peu plus de gens qui font à manger parce qu'ils sont un peu obligés. Hein, ils peuvent plus aller au restaurant. Donc, il y a vraiment cette contrainte.
C'est une contrainte ou c'est un plaisir? Parce que là, vous nous parlez surtout de contrainte, mais moi, j'ai l'impression qu'on a pris aussi du plaisir à cuisiner en famille.
Alors, il y a vraiment plusieurs types de populations qui, en effet, ceux qui ont le savoir culinaire et qui aiment faire ça, s'y retrouvent. Mais on a aussi toute une partie de la population qui n'est pas rentrée dans cette cuisine, hein, ce fait maison. Il s'est développé il y a une quinzaine d'années, alors que les gens passaient de moins en moins de temps à faire la cuisine. Mais ce retour à la cuisine, il touche que les gens qui ont connu, qui ont une transmission chez eux, en fait, hein, du savoir culinaire. Il faut avoir eu des parents qui faisaient la cuisine pour y arriver. Ça suffit pas d'avoir des émissions de télé comme Top Chef ou d'avoir des applications pour le faire, en fait. Hein. Déjà, il faut savoir faire les courses. Vous êtes dans un magasin, il faut avoir l'idée de ce que vous allez faire à manger. Et on voit bien qu'il y a quand même des difficultés dans certaines familles où, finalement, faire 3 repas par jour au premier confinement, c'était un peu...
Ça reste une corvée, quand même.
c'est ça.
Mais pourtant, c'est valorisant.
Alors c'est vraiment ce qui s'est développé il y a une quinzaine d'années, c'était ça, c'est-à-dire que le retour à la cuisine s'est fait vraiment dans des milieux, c'était des trentenaires qui voulaient, pour lutter contre leurs angoisses alimentaires, faire la cuisine et qui se sont mis à prendre des cours. Et finalement ça s'est développé par le repas du week-end, en fait, où on invitait des amis. Donc en France, quand on invite des gens, on les invite à manger. Et donc ça a vraiment été un engouement phénoménal. Les hommes se sont mis à faire la cuisine pour épater les autres et pour en faire un loisir, en fait, pour se faire plaisir, comme vous le dites.
Bon, mais rapidement, ça va durer ou pas? Ou c'est juste un feu de paille?
Alors, il y a vraiment un fond qui est que les gens se rendent compte que, finalement, par rapport à ces attentes écologiques, hein, vous venez parler de la Convention citoyenne, pour une partie de la population, manger mieux, et donc ça passe par le fait de se faire à manger soi-même. On emmène à manger sur le lieu de travail au lieu d'aller à la cantine. Bah, pour ces gens-là qui se préoccupent de leur santé et qui souvent se préoccupent aussi du changement climatique, ça passe par ça, par faire soi-même à manger, par faire la cuisine. concerne. Donc oui, ça concerne une petite partie de la population.
Ces gens-là,
qui
oui,
s'y retrouvent.
Voilà, mais ils sont pas majoritaires. Merci beaucoup pour ce décryptage qui était passionnant. Merci Pascal et Belle.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. C'est l'équivalent du Michelin pour le cinéma. La cérémonie des Césars aura lieu le 12 mars. L'Académie a révélé les nominations ce matin entre comédie sentimentale, romance gay et humour absurde. C'est un choix très équilibré, Stéphane Boutsock.
Oui, au terme de cette année si particulière, les films les plus nommés sont ceux qui étaient logiquement attendus. Le trait auteur, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret avec 13 citations. Devance de justesse, le très populaire Adieu les cons d'Albert Dupontel, retenu 12 fois par les votants, à égalité avec Été 85 de François Ozon. Suivent Antoinette dans les Cévennes, le phénomène du box-office 2021 avec 8 nominations et la surprise, le formidable documentaire Adolescente de Sébastien Lifshitz, cité à 6 reprises, notamment comme meilleur réalisateur et meilleur film. Côté actrice maintenant, Laure Calamy sera notamment face à Virginie Efira et Camélia Jordana. Chez les acteurs, Albert Dupontel affrontera Lambert Wilson, Sami Bouadjila ou Jonathan Cohen, l'acteur de comédie qui monte. Rendez-vous le vendredi 12 mars pour une 46e cérémonie dont la forme reste à définir. Elle aura lieu logiquement à l'Olympia, présentée par Marina Foïs. L'évolution de la pandémie décidera en fait de la présence physique ou à distance des nommés.
Merci Stéphane. Et malgré cette année 2020 sinistrée dans le cinéma, il y a quand même 125 films français qui ont réussi à sortir dans les salles.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons aujourd'hui à Bourgueil en Indre-et-Loire où un commerçant lassé des mesures de restriction face au Covid a décidé d'ouvrir un bar clandestin, ce qu'il appelle lui un lieu de convivialité. Reportage Christian Panvert.
Monsieur, est-ce que vous voulez une bière ou un café ?
À l'intérieur du local privé, une cafetière, une pompe à bière, une bouteille de Bourgueil, du pâté et des journaux. Le président de l'Union commerciale parle non pas d'un bar, mais d'un lieu de convivialité. Guillaume Lapac.
J'ai voulu faire ça par subrogation pour le faire à la place de tous les patrons de bar qui ont peur de le faire et pour envoyer ce message à leur place. Ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement accepte dans les petits villages que le couple maire-préfet regarde les situations locales. Aujourd'hui, on nous explique que tout doit être décidé depuis Paris. Ça, c'est très grave.
Il a gardé son masque, propose du gel hydroalcoolique, les tables sont espacées. Lydie Martin est patronne de la brasserie Le Lion d'Or. Elle tenait à faire le déplacement.
Je trouve que c'est un beau geste, voilà. On peut tout à fait se retrouver en respectant les gestes barrières. C'est pas pour autant qu'on s'embrasse, qu'on se tombe dans les bras. On connaît maintenant, on sait faire.
Alexandre Cuinache, conseiller régional sans étiquette, est passé lui aussi boire un verre pour soutenir la démarche.
Guillaume reçoit ses amis et pour ça il a sorti des chaises, des tables, des verres et de quoi se sustenter, c'est bien normal.
Guillaume Lapac devrait rééditer l'opération lors du marché à Bourgueil samedi prochain.
La préfecture n'y est pas favorable, mais elle ne peut pas l'interdire car c'est pas un bar officiel, mais justement ce qu'ils appellent un lieu de convivialité dans un local privé. La météo, Peggy Broche, le manteau neigeux va tenir.
Et oui Christelle, parce que pas de dégel cet après-midi sur le nord, les températures sont encore très froides. Moins 5 à Nancy, moins 4 à Langres, moins 3 à Orléans, moins 2 à Paris, 1 degré à Rennes, 2 à Cherbourg. Ce sont les températures réelles, mais le ressenti est de moins 10, moins 15 sur un grand quart nord-est et ponctuellement moins 15, moins 20 dans les endroits exposés au vent, en fait, sur les sols bien enneigés. Alors la neige, justement, cet après-midi, elle sera essentiellement entre les Vosges, l'Alsace et la Franche-Comté en plaine et sur tous les reliefs des 800 mètres. Le ciel est bien dégagé entre la Bretagne, l'Île-de-France et la Lorraine, là où il a bien neigé cette nuit. On profite d'un beau soleil, de belles éclaircies également près de la Méditerranée et partout ailleurs, encore beaucoup de nuages, quelques averses, surtout dans le sud-ouest et des averses également entre le Jura et les Alpes. Et puis ça reste très agité en Corse, hein. Beaucoup de vent encore avec des averses orageuses. Et je rappelle qu'il y a toujours 13 départements en vigilance orange, 10 pour neige, verglas sur le nord-est et 3 pour crue.
Et demain, encore plus froid, vraiment ?
Oui, demain, vraiment. Les gelées généralisées au nord, ce sera la journée la plus froide de la semaine avec un moins 10 attendu à Mulhouse, moins 12 à Langres, moins 7 à Lille-et-Camp, moins 6 à Paris, moins 4 à Lyon, de 2 à 7 degrés au sud. Alors, même dans le sud, ça va baisser, même si les températures sont plus douces, évidemment. Et dans l'après-midi, de moins 3 à 2 degrés au nord, de 6 à 15 au sud. Côté ciel, une belle amélioration avec un temps plus sec et plus lumineux. Plus de nuages dans le sud-ouest le matin et sur la façade atlantique toute la journée avec une nouvelle perturbation qui va arriver. Un peu de neige encore sur la Bretagne, de la pluie jusqu'en Aquitaine et plus on ira vers l'est, plus le ciel sera dégagé.
Bon, c'est quand même la première fois qu'on est content de porter un masque en extérieur.
Ça
protège
hein.
du froid, vous avez remarqué.
On est d'accord.
Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer dans 3 minutes maintenant, Pascal.
Il y a parfois des mystères dans les sociétés. Comment, pendant tant d'années, a-t-on pu imaginer qu'une jeune fille, jeune adolescente ou une enfant de 13, 14, 15 ans puisse avoir un consentement à avoir une relation sexuelle avec un adulte qui avait 10, 15 ou 20 ans de plus qu'elle. C'est un mystère quand même dans nos sociétés. Et la décision du garde des Sceaux, effectivement, elle est entre guillemets de bon sens, même s'il faut toujours se méfier de cette expression. Donc vous pourrez réagir bien sûr sur ce sujet qui fait déjà réagir, je le sais, les auditeurs. L'autre sujet sur lequel les auditeurs sont très à l'écoute, c'est le message de Julien Courbet sur Twitter qui a annoncé la disparition de sa chaîne Vega. Laurent Tessier me disait il est lui-même étonnant du nombre de personnes.
Oui,
il est étonné du nombre de personnes qui appellent. Julien Courbet a écrit « Vega, je ne pensais pas que je pourrais autant aimer un chien et qu'un chien pourrait m'aimer autant ». Et ça fait beaucoup réagir les auditeurs. Voici les deux sujets en pointe, si j'ose dire, de l'actualité du jour.
Voilà, une petite pause de rappel des titres et c'est à vous.
RTL. Nous aussi parlons-nous et nous allons nous parler entre 13h et 14h30 alors qu'il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Et Charlotte est déjà avec nous. Bonjour Charlotte, la proposition du garde des Sceaux, est-ce que vous la saluez ?
Bonjour Pascal, alors oui, je la salue. Parce que premièrement, la question à se poser, c'est pourquoi ça ne l'était pas déjà avant ?
Et ça, c'est une bonne question à laquelle on va répondre dans une seconde. Christelle Rebière.
L'Europe a été trop lente sur les vaccins, trop optimiste sur leur production, trop confiante sur les délais de livraison. C'est le mea culpa inédit de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Allemagne veut prolonger jusqu'au 14 mars le confinement partiel en vigueur. En France, où la barre des 80 000 morts vient d'être franchie, un comité de défense s'est tenu ce matin à l'Élysée. 5 personnes en garde à vue dans l'enquête sur les incidents survenus à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM le 30 janvier. Parmi ces personnes figurent 2 responsables de clubs de supporters. 5 supporters sont par ailleurs en détention avant leur procès le 24 février. Des dizaines de milliers de Birmans dans la rue pour le 5e jour consécutif. Hier, l'armée a mené un raid contre le siège du parti d'Aung San Suu Kyi, histoire d'afficher sa détermination face aux militants pro-démocratie.
Les auditeurs ont la parole